last year Sidney Lumet was here, and he had a very good time. So I said yes this year, and I'm happy to be here.
The only relationship to a Hollywood studio is whether the picture makes money. If it makes money, there's no problem. It could be about the beautiful life of Fidel Castro. They would do it if they thought it would make money.
To miał rację. Ten, co leci, czekał w górach. Czy ten, co się ukorzył i służy?
Journal du Festival, épisode 3. Émission consacrée au Arras Film Festival. C'est proposé sur les bonnes ondes de Radio PFM 99.9 à Arras et Radio Scarpe Sensée 94.1 à Vitry-en-Artois. Au cours de cette émission, vous retrouverez les rendez-vous du jour du Festoche. Joris évoquera pour nous le film Lulu, femme nue. Mais avant cela, on parle de cinéma et d'histoire. Cette année, le Arras Film Festival propose une rétrospective Nord contre Sud. 14 films consacrés à la guerre de sécession aux États-Unis, avec cette thématique au cœur de ce conflit, la fin de l'esclavage.
Mr. Lincoln, I hate them all. I do. I am a prejudiced man.
Congress must never declare equal those whom God created unequal.
Samedi dernier, une table ronde était organisée au village du festival avec trois historiens, dont Nicolas Barrère, maître de conférence à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales à Paris. On lui a demandé quel était son regard d'historien sur l'un des films proposés dans le cadre de la rétro, le Lincoln de Steven Spielberg.
Lincoln est un film récent qui est basé sur un livre d'histoire. C'est une des grandes différences par rapport aux films d'avant, qui sont des films basés sur la fiction. Là, c'est vraiment basé, le scénario est basé sur un film d'histoire. Donc, il y a eu une grande attention de la part du réalisateur et du scénariste aux détails d'histoire. Et notamment, une des choses intéressantes, c'est que une grande partie des dialogues sont pris des sources, vraiment. Et donc, ils ont réussi à faire des dialogues qui sont pris des sources historiques. Et donc, ça, c'est un point de vue assez intéressant.
Le nœud de ce film, c'est donc ce 13e amendement qui abolit l'esclavage aux États-Unis. Ça montre Lincoln pas si abolitionniste, enfin contre l'esclavage, mais pas forcément abolitionniste convaincu.
Alors Lincoln a eu tout un parcours pour une évolution intérieure sur l'histoire de l'esclavage. Donc il est très tôt contre l'esclavage, mais il pense que pour sauver l'Union, il faut tolérer l'esclavage pendant longtemps. Et puis il se met à dire qu'on ne peut pas laisser l'esclavage s'étendre dans l'Ouest. Et quand éclate la guerre, il fait la guerre pour sauver l'Union et pas pour abolir l'esclavage. Mais il y a pendant la guerre une transformation intérieure de Lincoln, de conviction. Et en même temps, notamment avec ses rapports avec des leaders noirs comme Frédéric Douglass, hein, qu'il rencontre plusieurs fois à la Maison Blanche. Donc une évolution intérieure et puis un pragmatisme politique où il se rend compte que l'abolition de l'esclavage devient également une arme politique contre le Sud pour pouvoir gagner la guerre. Et le 13e amendement, c'est pas une invention de Lincoln, c'est dans des radicaux, au Congrès qui le présentent. Mais à la fin de l'année 1864, Lincoln s'en empare comme étant le moyen de pérenniser ce qu'il a fait pour une partie seulement de la population noire et qui est de pérenniser l'abolition définitive de l'esclavage.
Le film montre aussi tout ce qui est les dessous de la démocratie, le marchandage, finalement avec cette idée qui domine à la fin que finalement cette abolition, elle a été aussi obtenue par l'achat de votes, quoi.
Alors, ce genre de phénomène est assez courant aux États-Unis à l'époque, donc c'est pas exceptionnel pour le 13e amendement. On marchande beaucoup, on va à la pêche aux voix, et pour aller à la pêche aux voix, des fois, on a de quoi négocier les voix des uns et des autres. C'est vrai que c'était l'intention du moins exprimé par Spielberg dans ses interviews, que de montrer que la politique, même les enjeux les plus moraux, se font pas toujours dans la pureté des processus. Et le 13e amendement, comme les autres, en est un exemple.
I can't end this war until we cure ourselves of slavery. This amendment is that cure.
We need two yeses.
Get the hell out of here and get them.
But how?
I am the president of the United States, clothed in immense power.
Alors ça a marqué donc ce 13e amendement la fin de l'esclavage, mais pas la fin de l'oppression des Noirs américains.
Alors c'est vrai que les 4 millions d'esclaves sont libérés par le 13e amendement qui est ratifié en décembre 1865, mais ils n'ont pas encore le statut de citoyen. Et donc ça c'est tout l'enjeu des années qui suivent créer un nouveau statut pour les Noirs. Et pendant les années de reconstruction, et notamment avec l'adoption du 14e amendement, ils deviennent des citoyens à part entière, des citoyens des États-Unis. Mais dans les luttes politiques qui suivent, et notamment dans les luttes violentes qui suivent, ils vont être relégués, notamment dans le Sud, une condition seconde, c'est-à-dire qu'ils ont théoriquement un statut égal aux Blancs, mais en fait on leur crée des conditions de vie qui sont, elles, inégales. Inégalité d'accès aux écoles, au théâtre, au cimetière, etc. Où on sépare les Blancs des Noirs, et en fait en séparant les Blancs des Noirs, on crée des conditions différentes, des conditions de vie différentes. Donc théoriquement, tout le monde est également citoyen, mais dans les faits, c'est très très différent.
Peut-être un mot aussi, puisqu'un extrait du film a été montré lors du débat, sur ce film que vous avez présenté comme le premier blockbuster de l'histoire du cinéma américain, un film de propagande du Sud raciste, quoi.
Oui, c'est Naissance d'une Nation, hein, de D.W. Griffith, qui est sorti en 1915 et qui montre la version sudiste de ce qu'était la guerre, la sécession, la guerre et ce qui s'est passé après la guerre sécession. Donc on est au bout de 50 ans, c'est 50 ans après la fin de la guerre, et au bout de toutes ces luttes politiques dont j'ai parlé et de tout ce travail de propagande dans le Nord comme dans le Sud, ben on arrive à une vision de la guerre où l'idée de l'esclavage comme cause de la guerre a disparu de la mémoire des Blancs, pas des Noirs qui s'en souviennent, mais de la mémoire des Blancs, la mémoire dominante des Blancs. L'idée que la reconstruction était une expérience ratée parce qu'on a voulu donner le pouvoir aux Noirs et que c'est contraire à la nature. Et l'idée que l'ordre social juste et bon, c'est un ordre social racial hiérarchisé. Et donc c'est ce que montre ce film, qui est à la fois d'une innovation extraordinaire du point de vue cinématographique et une version sudiste et raciste de ce qu'était la guerre de sécession et ses suites.
Peut-être une dernière question. On dit souvent que dans le cinéma américain, on fait des films sur la guerre, on fait des films sur l'esclavage, mais dans le cinéma français, il n'y a pas de films sur les guerres coloniales, il n'y a pas de films sur l'esclavage français. Comment vous voyez ça?
Alors il y a eu une approche, alors ça c'est pas une réponse de spécialiste du tout, il y a en France des films sur des guerres et aux États-Unis certaines guerres qui ont disparu des films. On voit rien, on n'a pas de film sur la guerre des Américains aux Philippines, qui est une guerre coloniale en 1898, ou même le protectorat sur Cuba, qui est aussi une guerre coloniale. Donc il y a aussi des choix qui correspondent à des choix de mémoire, des choix politiques, qu'ils soient conscients ou inconscients. Il y a des guerres qui, dans certaines cultures, ont plus d'importance que d'autres, et c'est vrai pour la France comme c'est vrai pour les États-Unis.
Nicolas Barrère, maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, co-auteur notamment du livre « De l'émancipation à la ségrégation, le sud des États-Unis après la guerre de sécession ». Il participait samedi dernier à cette table ronde « Lincoln et la fin de l'esclavage » lors du Arras Film Festival. 2 heures de table ronde très intéressante, mais quand même un peu longuette. Beaucoup de films à ne pas rater dans le cadre de cette rétro Nord contre Sud, notamment aujourd'hui, un ciné-concert autour du Mécano de la Générale, Buster Keaton accompagné en live par la musique de Jacques Cambra et Catherine Desjardins, c'est à 14h30 à Artois Expo. Si vous n'avez jamais vu Amistad de Spielberg, un grand film sur l'esclavage, ça sera proposé ce soir à 21h au Movida. N'hésitez pas non plus à redécouvrir ce classique sur grand écran. Et puis, on en a parlé lors de l'interview, le film Naissance d'une nation, ça fera l'objet d'un ciné-concert ce samedi 16 novembre à 14h30 à Artois Expo. Tout de suite, on retrouve Joris, tout habillé, je vous rassure, pour nous parler de Lulu, femme nue.
Adapter une bande dessinée, c'est devenu aujourd'hui un grand classique du cinéma français. Dernièrement, Bertrand Tavernier s'est lancé dans cette vague avec Quai d'Orsay. Librement inspiré des deux tomes de chroniques diplomatiques, le cinéaste filme un Thierry Lhermitte en ministre des Affaires étrangères. Mais samedi dernier, au cinéma Movida, pour le Arras Film Festival, j'ai vu le dernier film de Solveig Anspach, où, là encore, une BD est au ciné, Lulu femme nue d'Étienne Davodeau. La réalisatrice nous parle de son projet.
Tous les acteurs dont j'ai eu envie, ils ont dit oui. Bah, par exemple, je vais commencer par Corinne, parce que Corinne est à ma droite, pour ceux qui n'ont pas l'image et n'ont que le son. Corinne, je l'avais vue dans Louise Wimmer et ça a été un grand choc. Ça m'a vraiment beaucoup marquée. Et donc, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je me souviendrai que Corinne est venue dans le bureau du directeur de casting et j'étais un peu intimidée. Et puis, je lui ai dit, bon, vous avez lu? Elle m'a dit, non, raconte-moi ma poulette. Et du coup, je lui ai raconté l'histoire et voilà la partie à laquelle je pensais pour elle. Et puis, elle m'a dit oui et c'était tellement simple. Pour Bouli, ça a été pareil. Bouli, je l'ai rencontré, je crois, Gare du Nord, parce que c'était un moment où il retournait à Liège. Donc j'ai amené la BD et je lui ai juste dit, voilà, j'aimerais beaucoup que vous jouiez dans l'adaptation d'une BD que je vais faire, mais le scénario, on commence, je ne l'ai pas encore. J'avais la BD avec moi et Bouli m'a juste dit, écoutez, j'ai vu vos films, c'est oui, je n'ai pas besoin de lire. Pour Karine, ça a été un peu pareil. Je lui ai amené la BD, je lui ai dit on n'a pas encore écrit, mais si on fait l'adaptation, est-ce que tu serais partante? Et elle m'a dit, bon, il faut que je lise, mais oui, dans l'idée, oui.
De la BD comme au cinéma, l'histoire nous fait le portrait d'une femme qui veut sa liberté et décide de tout quitter pour vivre une autre vie. Karen Villard interprète donc une héroïne effacée, fragile, mais qui se met à nu devant nous. Au cours de ce road movie, elle rencontre le marin Bouli Lanners, la seigneur Claude Jansac, la biche de Louis de Funès, le déjanté Pascal de Melon et l'incorruptible Corinne Maziero, jury et invité. Le synopsis donc n'est pas le récit du siècle, mais ce voyage initiatique est une belle réussite avec ses plans où le personnage est devant la mer et aussi avec ses couleurs étincelantes.
Elle se retrouve avec du temps pour elle, pour réfléchir, c'est-à-dire depuis combien de temps cette femme n'a pas, un, dormi seule, deux, dormi dans une chambre d'hôtel, même si cette chambre d'hôtel est un peu naze, je veux dire, c'est énorme pour elle. Et puis, depuis combien de temps elle n'a pas pris de temps pour juste glander, se promener, pas faire les repas, 17 ans. C'est énorme dans une vie.
Ce film donc nous porte une réflexion sur le désir et la liberté. Lucie, dit Lulu, part à la rencontre de personnalités. Chaque tête-à-tête permet de la remettre en question. Elle va découvrir donc l'amour et le bonheur. En voyant ce film, donc un vent de légèreté souffle pendant 1h30. Ce film donc s'oppose à la projo Les Grandes Ondes de Valérie Donzelli et Michel Vuurmoz qui n'apporte rien au cinéma si ce n'est que dépenser un petit peu ses sous. Maintenant, vous savez vers quelle vibration vous portez pour voir un portrait d'une femme libre et sans limite.
Dernière partie de ce journal du festival, la partie agenda du jour de ce mardi 12 novembre. On retrouve Boris et Joris pour cet agenda.
Pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent le matin, eh bien on commence avec Girafada de Rani Masala, film classé dans la catégorie cinéma du monde. Et ça se déroule à l'auditorium d'Artois Expo aujourd'hui à 9h30.
Et à partir d'aujourd'hui, la première série des films consacrés à Yolande Moreau, Louise Michel, des Groslandais Benoît Delépine et Gustave Kirvern, avec donc Yolande Moreau, Bouly Lanners ou encore Benoît Poulvorde. C'est à découvrir donc à 11h30. Et puis le film coup de cœur de Yolande Moreau, Raining Stone de Ken Loach à 11h30.
Un film suédois qui parle d'une chanteuse jazz suédoise. Ça s'appelle Vals pour Monica. C'est présenté tout à l'heure à 16h30. Ma maman m'a dit que c'était un super film.
Un film très dur à voir dans la catégorie découvertes européennes, Le géant égoïste de Clio Barnard, au Cinémo Vida à 19h.
Un film japonais à découvrir ce soir à 21h30, ça s'appelle Tel père, tel fils, et comme le titre l'indique, ça parle de la question de la paternité.
Et on termine cet agenda avec le film Une autre vie d'Emmanuel Mouret à 21h30, en présence donc du réalisateur Virginie Ledoyen, Stéphane Fraisse, et puis un dernière arrivée, Joey Starr.
Clap de fin pour ce journal du festival épisode 3. On se retrouve pour de nouvelles aventures radiophoniques demain, si tout se passe bien, sur Radio PFM. Donc c'est en seconde partie d'Info 30 aux alentours de 7h45, 12h45 et 18h15, et puis sur le www.radiopfm.com. C'est également sur Radio Scarpe Sensé à Vitry-en-Artois et aux alentours à 12h30 et 17h. A plus et bonne suite de festival. Welcome to the Astronomic Club. On se quitte avec la voix et la musique de Monica Zetterlund qui a inspiré donc ce film suédois Vals pour Monica.
Innan jag är riktigt vaken står han lutad över sängen. Säger hej. Och så dricker vi vårt kaffe sedan barnen gått till skolan och jag månat mig. Och han tar min hand och kramar den, skrattar när han ser hur trött jag är. Och så ler han då han kysser mig till avsked innan det till jobbet bär. Om det inte är kärlek då vet jag bara det. Gud gjorde ej gröna små äpplen, det finns inga hav och finns inga öar i så fall. Då leker inga barn trafatt, då finns det inga glada skratt, då är solen kall. Gud gjorde gröna små äpplen, det finns inga berg och finns inga sjöar. Nej, tro mig på mitt ord. Om inte det är kärlek så, då finns det ingen sån att få på denna jord. Jag ringer till hans jobb ibland, vet att han har bråttom. Säg, kan du slita dig från en stund och äta en bit mat? Och han släpper allt för handen och möter mig på stan och jag är sen förstås. Men han väntar tåligt leende och säger överseende, jag känner dig. Om det inte är kärlek, då vet jag bara det. Gud gjorde ej gröna små äpplen, det finns inga hav, det finns inga öar i så fall. Då finns det ingen New York smog och heller ingen London fog, då är solen kall. Gud gjorde ej gröna
finnas få äpplen. Det finns inga berg och finns inga sjöar. Nej, tro mig på mitt ord. Om inte det är kärlek så, då finns det ingen sån att få på denna jord. Du gjorde ej gröna små äpplen. Det finns inga hav och finns inga öar i så fall.